Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais une petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Des hommes déshabillés, de drogue commandée, d'amour et de tuer. Et si tu me paries les réponses aux grands défis de l'univers.
Cette semaine, Ainsi soit-elle, on est en compagnie de Marie, Marie-André et moi, c'est Evelyne. Salut les filles!
Salut!
On parle cette semaine de violence, d'abord parce que c'est la campagne d'action contre la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, mais aussi parce que moi, je travaille sur la question de la violence politique et du genre. On va parler donc de ces deux thèmes-là en parallèle, ça va être bien, bien, bien spécial, et on va parler aussi de la sexualité. La sexualité, particulièrement dans la deuxième vague du féminisme, c'est pour ça qu'on a ici Marie-André avec nous. Donc, ça va être essentiellement ça, le contenu de l'émission, des belles discussions, des beaux débats. Puis, on va finir ça avec un très beau calendrier militant.
C'est ça.
On commence tout de suite en musique, Marie?
Oui, avec Harold, une chanson qui s'appelle « Je n'irai jamais travailler ». C'est un beau programme.
J'adopte.
Travailler, je n'irai jamais travailler, j'aime.
Sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous écoutez Ainsi soit-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. Le 25 novembre dernier, c'était la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On le sait, la violence à l'égard des femmes, c'est un des domaines avec, disons, la pauvreté puis la sexualité, le double standard sexuel, tout ça, c'est un des domaines où l'inégalité entre les hommes et les femmes est encore extrêmement criante et où, personne peut vraiment contredire ça. C'est encore quelque chose qui fait la manchette, malheureusement, beaucoup trop souvent. La violence envers les femmes, ça peut prendre différentes formes. Là, traditionnellement, on identifie beaucoup la violence sexuelle, la violence physique, la violence psychologique, mais aussi la violence économique. Donc, au Québec, on célèbre, entre guillemets, ou on souligne la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre, mais traditionnellement, à cause de ce qui est arrivé le 6 décembre, on étire la campagne pour vraiment appeler ça 12 jours d'action pour contrer la violence, pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Puis là, à l'occasion de ces 12 journées d'action-là, les différents groupes de femmes, bon, émettent des communiqués, font différentes actions, mettent de l'avant différentes revendications. J'ai retenu seulement le communiqué de la Fédération des femmes du Québec parce que, bon, c'est quand même quelque chose de rassembleur. C'est une campagne d'action qui a été endossée par plusieurs groupes et individus, là, dont je ne vous ferai pas la lecture. Donc, leur communiqué, elles ont décidé de cibler, en fait, dénoncer la violence envers les femmes qui persiste encore en 2010, mais précisément sur deux choses. Ils ont suivi un peu les revendications de la Marche mondiale des femmes et elles dénoncent cette année particulièrement la marchandisation du corps et la sexualité des femmes et la militarisation. Un petit peu, je le redis. La marchandisation du corps et de la sexualité des femmes, d'une part, et la militarisation, d'autre part. Donc, dans leur analyse, elles expliquent « Dans notre société, il existe des structures politiques, économiques et sociales qui permettent à la violence envers les femmes d'exister et de perdurer. À l'instar de la Marche mondiale des femmes, nous dénonçons particulièrement deux phénomènes en expansion qui, à travers la mise en place et le maintien de conditions, normes et pratiques, encouragent cette violence. » Donc, c'est vraiment une analyse quand même structurelle, parce que la violence envers les femmes, dans cette analyse-là, donc, c'est pas juste les maniaques, les tueurs en série, puis les méchants batteurs de femmes là, qui la perpétuent, mais bien le système comme elles l'ont identifié, donc les structures et tout ça. Donc, à la mémoire des 14 jeunes femmes victimes du crime politique contre les femmes qui a été commis le 6 décembre 1989, la FFQ a décidé cette année de faire la promotion de 14 façons de lutter contre la violence envers les femmes, donc en mémoire de ces 14 femmes-là. Donc, je vais vous les énumérer. Pour agir contre la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes, dénonçons les publicités sexistes, dénonçons l'idéal de beauté qui nous est imposé, ouais. Refusons de consommer de la pornographie, dénonçons la traite des femmes et des enfants à des fins sexuelles.
Chou.
Pour se lever contre la militarisation, dénonçons le viol utilisé comme arme de guerre, refusons que les droits des femmes servent de prétexte à la guerre, refusons d'acheter des jeux et des jouets de guerre, dénonçons le recrutement militaire dans les établissements d'enseignement. Et pour continuer à combattre la violence misogyne et les inégalités qui la génèrent, dénonçons la banalisation de la violence, intervenons si nous entendons des paroles violentes ou sexistes, intervenons lorsqu'une femme se fait harceler ou violenter, dénonçons les agresseurs et l'impunité dont ils bénéficient, dénonçons les propos antiféministes, une attaque contre toutes les femmes, et brisons le silence, dénonçons l'intolérable, car la violence tue. Donc, c'est un peu ça leur campagne. Donc, l'idée ici étant, bien entendu, d'en faire la publicité et la diffusion, et non pas d'en débattre chacun des points.
Entre autres, pour rebondir peut-être sur le sujet de la militarisation, il y a un officier de l'armée canadienne qui a décrété récemment que c'est plus dangereux dans les guerres aujourd'hui d'être une femme que d'être un soldat. Donc, même l'institution militaire avoue que l'industrie de la guerre est beaucoup plus dangereuse pour les femmes que les soldats eux-mêmes. Et en tout cas, j'avais trouvé ça particulièrement choquant. Oui,
c'est assez parlant. Puis, ben, la FFQ, vous savez, qui s'est fait dénoncer vraiment pour sa publicité dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, justement, où elle dénonçait la militarisation parce que la Marche mondiale des femmes avait pris position, ben, au Québec contre la guerre en Afghanistan, ce qui a été quand même très, très controversé. Mais c'est ça, l'idée, un peu, c'est de faire les liens, hein, entre toutes ces différentes formes d'oppression-là, puis ces structures-là, justement, comme elles identifient politiques, économiques, sociales, et pas juste de voir la violence comme dans ses faits et gestes et dans ses conséquences bien, bien immédiates, mais bien essayer de dégager une analyse un peu plus large de ça. Quand je parlais des débats tout à l'heure, ben je sourcillais seulement autour de la question, justement, de la marchandisation, de la traite des femmes, hein, puis de la pornographie. On sait, on en a parlé souvent, c'est des sujets qui suscitent quand même beaucoup de débats, même à l'intérieur du mouvement féministe. Donc, je voulais juste le souligner au passage. On va pouvoir parler plus avant de violence, parce que la violence, c'est quelque chose de très, très émotif, hein, qui soulève les patientes quand on en parle, puis souvent on évite de définir le terme et c'est tellement émotif que c'est difficile d'en parler puis de l'analyser vraiment plus avant. Donc on va essayer de faire une petite tentative de ça un petit peu plus tard dans l'émission, mais pour l'instant on passe en musique, Marie.
Avec Anna Tijoux, une chanson qui s'appelle 1977.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio quisieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970. 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente. 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente. Para la mirada de una niña que solo talla espada, hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila, pupila de poeta que marcó nuestra saliva, en la cordillera que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970. 1977, no me diga no, que no lo creo.
ondes de CKIA FM, c'est toujours Ainsi soit-elle. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un sujet quand même tabou, femmes et violences politiques. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis toujours, l'an dernier, je vous ai parlé, je vous ai fait un petit micro femmes et Black Bloc alors que j'étais en voyage sur la côte ouest et que j'avais un peu réagi, dans le fond, à un débat qui avait eu lieu sur Internet où... quelqu'un avait écrit une lettre ouverte qui s'intitulait Open Letter, a Critic of the White Student Movement. Donc, c'était une lettre ouverte qui dénonçait un événement particulier qui avait eu lieu. C'était une occupation d'édifices, comme il y en a beaucoup en Californie, qui avait dégénéré ou qui avait évolué en party de rue. Et pendant ce party de rue-là, il y avait ça avait évolué aussi en affrontement avec la police, en destruction de propriété, en mini-émeute, bref. Et cette personne-là avait écrit un peu une lettre disant que ce genre de comportement-là, c'est macho, puis que ça correspond beaucoup que c'est des hommes blancs, jeunes, privilégiés qui peuvent se permettre de faire ce genre de comportement-là. Puis, il y a une lettre qui a circulé sur Internet qui s'appelait Response to a Critic of the White Student Movement, puis qui a été écrite par The Invisible Woman Committee. Bon, on sait, The Invisible Committee, c'est une référence là, à Tikkun, toute cette fange de la pensée politique qui aime ou qui trouve une pertinence, dans le fond, à l'émeute, à la violence sociale, et qui considère ces violences-là comme faisant partie d'un mouvement plus large de contestation du monde, ou... En tout cas, je m'étendrai... Je suis comme en train d'ouvrir une parenthèse dans laquelle je veux pas embarquer, mais bref, j'avais envie de vous lire un petit extrait en anglais de cette lettre-là qui m'a mis un petit peu sur la piste du sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça commence comme ça. On the night I chose not to die, I was a woman of color. On the night I chose not to die, I fought with anger and determination and finally fell asleep with a satisfied smile born not from my own sheltered existence, but from the momentary dissolving of the reality of privilege. En gros, dans le reste de cette lettre ouverte-là, le Women Invisible Committee explique à quel point, dans le fond, la personne qui a écrit l'autre lettre n'était probablement pas là parce qu'il y avait, selon elle, plusieurs femmes dans cette émeute-là et plusieurs femmes de couleur aussi. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que cette émeute-là était plus diversifiée en elle-même que la plupart des manifestations libérales auxquelles cette personne-là avait assisté dans les dernières années. Et dans cette lettre-là, elle fait un peu l'apologie de l'expérience libératrice de l'émeute. Donc, ça m'a donné envie de m'intéresser plus avant à cette question-là et je suis tombée sur un texte qui s'appelle « You can't do gender in a riot, violence and post-representational politics ». C'est un texte de Ike Thompson, qui est un sociologue de York, qui est écrit dans le Berkeley Journal of Sociology. Et ce texte-là date de 2008. En gros, comme le titre de son article l'indique, l'hypothèse de l'auteur, c'est que le genre ne peut pas opérer pendant une émeute. Puis, il étudie particulièrement les émeutes du Black Bloc, donc dans le cadre du mouvement anti-mondialisation. Donc, quand il dit que le genre ne peut pas opérer, il ne dit pas, dans le fond, qu'il n'y a pas de... En fait, il prend pour acquis que... Dans un Black Bloc, chacun et chacune est rien de moins ou de plus qu'une entité qui bouge avec le groupe à cause des masques, à cause des costumes. On peut pas, pendant l'émeute, utiliser le genre comme procédé de catégorisation, de différenciation et de hiérarchisation. Donc, il s'inscrit beaucoup dans la théorie du genre qui définit le genre non pas comme une caractéristique de l'individu, même acquise socialement, mais le genre comme un processus. Donc, un processus qui divise les êtres humains en deux catégories, attribue des différences à chacune de ces catégories, puis hiérarchise ensuite ces catégories-là. Puis dans le fond, ce qu'il dit, c'est que ça se produit pas pendant une émeute du Black Bloc.
Ça se produit pas parce que ça fait pas sens à ce moment-là ou parce que...
En fait, ça se produit pas parce que y a pas... parce que tout le monde se ressemble d'abord, mais aussi parce que ce qui compte pendant qu'on fait ça, c'est ce qu'on fait, et non pas pourquoi on fait ou qui on est. Donc, son hypothèse, c'est vraiment le fait que, comme pratique, les Black Blocs rendent un peu caduque la catégorisation des êtres humains. C'est sûr que c'est très, très, très situé. Là. Moi, je trouvais vraiment l'hypothèse puis le titre de l'article très, très intéressant. Après, la démonstration, c'est autre chose, mais ce qui est intéressant dans sa démonstration, dans le fond, c'est surtout son hypothèse, en fait. Il essaie de la démontrer en trois temps. D'abord, il essaie de déconstruire la croyance historique qui dit que les femmes ne participent pas à des émeutes. Donc, parce qu'il dit que si on considère souvent que les émeutes sont justement quelque chose de macho ou qu'on considère la violence comme quelque chose de typiquement masculin puis typiquement dominant, il commence en déconstruisant cette croyance-là, en donnant beaucoup d'exemples, évidemment, de femmes qui ont participé à différents mouvements de résistance. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est un argument un peu plus philosophique qui considère que d'aborder la question du genre en termes d'inclusion, ça pose plein de questions philosophiques, comme par exemple quand on parle d'inclure les femmes dans la politique ou dans une émeute ou dans une pratique, de quelles femmes on parle, tu sais. Là, c'est toute la question, dans le fond, des analyses intersectionnelles puis des féministes postcoloniales qui demandent, dans le fond, aux autres féministes, de quelles femmes vous parlez quand vous parlez des femmes, inclure les femmes, mais qu'est-ce qu'être une femme, dans le fond? Ils reprochent à cette dynamique d'inclusion-là de reproduire, dans le fond, une catégorie que lui, comme analyste, appelle à dépasser. Parce qu'en gros, il parle beaucoup dans son texte de comment la question du genre des émeutes s'est posée à l'intérieur du mouvement anti-mondialisation. Parce que justement, quand il y a eu plusieurs manifestations qui ont évolué vers des émeutes ou quand il y a eu la pratique des Black Blocs de destruction des propriétés, c'est une critique qui a été adressée à plusieurs reprises. C'est pas une pratique qui est accessible aux populations marginalisées, c'est une pratique qui reproduit des comportements de domination, qui reproduit la violence, qui fait juste renforcer le système. Lui, il revisite un petit peu ces débats-là en disant, oui, OK, peut-être que c'est pas bien mais différent de ce qui se passe ailleurs, mais il redonne un peu de contenu là, politique à cette violence-là en le posant comme un moment, en posant l'émeute ou le Black Bloc ou la pratique comme moment où est-ce que des nouvelles choses peuvent émerger, comme par exemple l'abolition du genre. En tout cas, c'est quand même assez glissant comme argumentaire, mais le troisième temps de son analyse, c'est vraiment au niveau de la logique de la représentation, dans le fond. C'est là qu'il dit que, de là dans son titre, « Post-Representational Politics », l'émeute, par sa pratique, demande rien. Donc, c'est pas important au nom de qui on le demande. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on fait. Puis, au-delà de l'efficacité tactique des Black Blocs ou encore leur efficacité symbolique, ce qu'il dit qui est intéressant d'étudier, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans la subjectivité des acteurs? Puis, comment on pourrait faire, justement, pour faire prolonger ce mouvement, ce moment-là d'abolition du genre qu'il théorise pour s'en inspirer pour rêver d'un futur sans genre, sans catégorie, sans hiérarchisation des identités. Donc, c'est quand même assez complexe. J'étais un peu déçue de sa démonstration parce qu'il part de vraiment très loin. Là, il part du 18e siècle, il parle des femmes comme muses de la violence, il parle des femmes qui se sont impliquées dans les émeutes sur le droit de propriété, sur les du mouvement contre les enclosures. Mm-hmm. Il parle des femmes qui se sont impliquées dans les émeutes sur le prix du pain, des choses comme ça. Après, il parle des suffragettes. Il parle beaucoup de la violence qui a été employée dans le mouvement des suffragettes, la violence qui a vraiment pris un rôle central dans les activités des suffragettes et où les actions des suffragettes en elles-mêmes étaient fondatrices d'un sujet politique femme. Donc, il montre comment, dans le fond, à une certaine époque, les femmes s'impliquaient dans des mouvements qui remettaient pas vraiment en cause les attentes qu'on avait envers elles, envers leur féminité, tu sais, le droit, le prix du pain, par exemple, c'est directement relié à ce qu'on s'attend des femmes, nourrir leur famille, tout ça, alors que les suffragettes, c'était complètement différent. En le faisant, les femmes devenaient un sujet politique. Et par rapport au Black Bloc, ben, lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que c'est un troisième moment, c'est c'est un niveau d'engagement qui est encore plus profond, parce que quand tu t'engages dans un Black Bloc, ben tu mets ton corps en jeu, puis t'es pas en train de justement de revendiquer quelque chose, t'es en train de faire quelque chose de vraiment. En tout cas, il parle vraiment de l'émeute comme une pratique, comme d'un engagement dans l'histoire, comme une pratique non médiatisée, dans le fond, la reconnaissance compte pas. Tu fais pas pour avoir l'air de quelque chose, tu fais pas pour convaincre, tu fais pas pour... Tu le fais, c'est tout. Mm-hmm. C'est sa vision un peu idéalisée là, de l'émeute. Là. Mm-hmm. Mais en tout cas, ce que je trouvais d'un peu plus dommage, c'est que, bon, son hypothèse, moi, c'est sûr que ça m'a plu dans son titre tout de suite, mais je m'attendais à trouver plus, des entrevues avec des filles qui ont fait partie d'un Black Bloc ou, tu sais, quelque chose comme ça. Puis il y a juste à peu près 2 citations, là, des entrevues qu'il n'a pas faites lui-même, justement, qu'il a pris dans d'autres recherches. Mais je trouvais ça quand même intéressant comme hypothèse, puis j'avais envie de la partager avec vous. Je sais pas si vos expériences, qu'est-ce que vous en pensez, vous sortez les filles.
En tout cas, je ferai un appel à vie aux amatrices qui ont envie de faire des recherches là-dessus. Je pense que ce serait très, très intéressant, justement. Puis si jamais vous voulez nous en parler, téléphonez-nous ici, on se fera un plaisir de vous écouter aussi.
Parce que, dans le fond, ce que ça pose comme question, tu sais, par rapport à la première partie de l'émission où je parlais justement des campagnes contre la violence faite aux femmes, il y a un bout du communiqué de la FFQ que je ne vous ai pas nécessairement lu, mais qui dénonçait, dans le fond, la violence en général, là, tu sais. Fait que ce que ça pose, dans le fond, comme question, cette idée-là de la violence politique exercée par les femmes, c'est vraiment... Est-ce que la violence, c'est social? Tu sais, il y a des féministes qui vont dire, ben c'est le fait du genre qui a accordé le genre comme procédé qui est ancré historiquement dans une structure patriarcale qui fait, dans le fond, que c'est les dominants qui définissent le contenu des catégories, au fait que la violence, c'était une prérogative de la catégorie mâle. Est-ce que, à cause de ça, on doit refuser cet outil-là,
ouais, aussi,
pareil, aussi d'autre part, on pourrait, comme l'auteur le suggère plutôt, reproduire des comportements qui sont typiquement mâles pour essayer de les transformer, puis de se transformer nous-mêmes. L'auteur réfère beaucoup à Judith Butler avec son « Gender Trouble », parce qu'elle, ce qu'elle propose justement, c'est que quand une femme répète des pratiques qui sont habituellement réservées aux hommes, ça transforme non seulement la femme, mais ça transforme aussi la pratique en tant que telle qui devient plus vraiment réservée aux hommes à ce moment-là. Fait que je trouvais que ça posait des questions théoriques quand même très, très, très intéressantes.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça pose pas nécessairement la question de la violence. T'sais, on a comme cette espèce de concept. On conceptualise les femmes par rapport à la violence souvent en victime et non pas en tant que personne qui commet la violence. Puis aussi, quand on réfléchit à la violence, on la réfléchit rarement en tant que violence politique. La violence politique est généralement taxée de terrorisme maintenant. La violence politique est plus réfléchie. Dès que quelqu'un pose un acte de violence politique, c'est-à-dire pas nécessairement un acte de violence physique envers quelqu'un, mais une violence qui peut être symbolique ou matérielle, envers l'objet de sa colère, ben c'est pas réfléchi politiquement, c'est tout de suite réfléchi matériellement, c'est-à-dire il y a eu des bris, il y a eu des arrestations, il y a eu ci, il y a eu ça, puis la cause de la violence comme telle est jamais réfléchie, puis c'est toujours étiqueté comme étant négatif nécessairement, puis jamais réfléchi. Puis là, ben, d'inclure les femmes dans cette réflexion-là, c'est encore plus...
Inédit.
Inédit, oui, exactement.
Ben, en m'intéressant justement à la question de la violence politique et du genre, j'ai trouvé de plus en plus de recherches justement qui s'intéressent à des femmes impliquées soit dans la guerre maoïste au Népal ou encore les Amazones, les kamikazes tchétchènes. Il y a même un dictionnaire en 2 volumes dans une encyclopédie Les femmes et la guerre, là, puis ça inclut les guerres étatiques, mais aussi les guerres dites révolutionnaires et les groupes dits terroristes. Mais c'est bizarre qu'il y ait comme ce gros intérêt-là, parce que dans le fond, moi, ce que je me demande comme question, c'est y a-t-il un danger là, là-dedans, dans le fond? Est-ce que le fait de dire « Ah oui, ben regardez, vous voyez, dans l'histoire, les femmes aussi ont été violentes. Regardez, de plus en plus, il y a des femmes qui se font arrêter dans les émeutes. On voit en France en ce moment des proportions hallucinantes de filles qui sont arrêtées dans ces émeutes-là. » Mais est-ce que ça serait pas justement est-ce que ça trahirait pas, dans le fond, le fait qu'on s'intéresse à ça tout à coup, une espèce de volonté de dire, ah, vous voyez, encore l'égalité est atteinte, tu sais, ou de dire encore, regardez, il n'y en a pas de différence dans les structures.
De justifier le fait qu'on soit violente envers les femmes aussi, là, puisque elles le sont aussi, on fait juste que leur répondre, finalement.
Les émeutes qui ont lieu en ce moment, ben, les émeutes, disons, les manifestations qui parfois virent en émeute en Grande-Bretagne par rapport au dégel des tarifs de scolarité, il y a eu carrément un article, un photoreportage sur les filles mènent la grève. Puis c'était des photos de jeunes filles adolescentes qui donnent des coups de pied sur des camions de police, qui brisent des pare-brises, ils ont fait une sélection de photos de filles qui posaient des actes dits violents. Puis là, c'est tout à coup parce que des filles s'impliquent, parce que des filles sont présentes et sont visibles, c'est elles qui mènent la violence et de la manif. Tu sais, c'est comme si c'était tellement, c'est comme dire, regardez, voyez comment les filles maintenant sont rendues violentes. Tu sais, c'était comme si c'était anormal, tu sais. Souligner que les filles avaient
cet intérêt-là pour la violence au féminin, je pense que c'est très très glissant. Puis même si avec les féministes post-coloniales, on peut s'intéresser à l'exercice de la violence politique comme forme d'émancipation, je pense que justement c'est un terrain sur lequel il faut être très 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 prudente, surtout dans le choix des mots qu'on utilise, puis le choix des angles, puis les définitions des termes qu'on donne aussi. En tout cas, ma réflexion est en progrès. Je vais sûrement avoir l'occasion de vous en reparler si je lis d'autres textes qui me stimulent à ce niveau-là.
Ben merci, Evelyne. Okay. On va en chanson avec Actitude Maria Marta, une chanson qui s'appelle Résurrection en espagnol.
Vas a tener que escuchar, ay, 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 ay.
Me dirijo a toda mi gente, la comunidad de mi nación, porque hay algo que mi gente está causando desazón. Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo, porque así toda mi gente resulta que sola se está destrozando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos, que el alma de toda mi gente se está enfrentando a un abismo difícil de evadir, en tiempo de decidir si la vida que estamos llevando nos empuja a mentir. Por eso sigo y ando soluciones por la vida rockeando. Por eso sigo y ando buscando las soluciones por la vida rapeando. Por eso
traigo un pensamiento para todos los presentes, rapeando te lo digo de manera diferente. Ajá. Para mi gente, para la que busca día a día, sí, en este laberinto encontrar una salida. Sé que es desesperante y la moral se nos daña, nosotros en la miseria y otros tomando champaña. Pero por consiguiente me dispongo yo a decirte que si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a rendirte? Más vale estés atento, también bien predispuesto. Ante la falta de reacción, señores, es que yo protesto. No sea tan necio, no busque más pretexto. Rimando y ragamufeando, es que yo sigo con esto. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Con follow me one more time, so.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar, ay, ay.
Y ahora me pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué Malena, qué les pasa? Nos están ofendiendo.
¿Quiénes?
Los envidiosos se están burlando. Ajá. Pero a mí ya su burla se me están rebalando. Toda su conjetura se fueron desvaneciendo.
Este es el comentario que a diario le digo y hago al adversario en el calvario que vivimos. Lo padecemos, hacemos. Hago un llamado al mundo entero pa' que recapacitemos.
Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y no
imposible que la desolación haya acaparado el territorio. Es imposible cuán anticipado vino el velorio. Inútil como llevar un remedio al cementerio. Se vuelve el escenario cuando el mensaje es hueco, banal, etéreo. Es imposible que la resignación tenga la victoria. Es imposible que sea imposible cambiar la historia. Es imposible haber muerto sin haber vivido. Como parece, es imposible, mi hijo penetra tu oído.
Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Come follow me one more time, so.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar. Solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder.
Cette semaine à Ainsi Soit-elle, on a une invitée spéciale, Marie-André, bonjour.
Salut.
T'es venue nous parler du livre « Desiring Revolution, Second Wave Feminism and the Rewriting of American Sexual Thought ». Mais avant, tu vas nous expliquer un petit peu de quoi on parle quand on parle de « second wave », deuxième vague. C'est quoi une vague? C'est quoi le féminisme?
Alors, merci pour cette introduction plus que dynamique. Je vous répondrai, chère amie. En fait, quand on parle de deuxième vague, c'est nécessairement parce qu'à quelque part, on veut situer un moment, une deuxième par rapport à une première et par rapport à une troisième. Dans ce cas-ci, on parle du féminisme. Le concept de vague est venu pour aider à conceptualiser un peu ou délimiter d'une certaine manière, sans exclure, des événements qui se sont produits dans la réflexion féministe depuis la fin du 19e siècle. Il y a eu des personnes qui ont réfléchi aux conditions de vie des femmes, qui ont proposé des analyses extrêmement intéressantes qui datent du 14e siècle, comme c'est le cas de Christine de Pizan, qui était une Française philosophe qui a écrit plein de livres, qui a dénoncé l'institution du mariage, la soumission des femmes envers les hommes, entre autres par le biais de la religion. Il y a eu Mary Wollstonecraft, aux États-Unis, pardon, mais en Grande-Bretagne. Il y a eu Simone de Beauvoir, qui, elle, est considérée comme une précurseur, puis donc à la limite, à quelque part, précurseur de la première vague. Ce qu'on nomme première vague du féminisme, c'est cette espèce de mouvement ou d'effervescence de réflexion sur la condition de vie des femmes qui a commencé à la fin du 19e siècle puis qui a duré plus ou moins jusqu'à la moitié du 20e siècle. Les revendications qui sous-tendaient ce mouvement-là, c'était plus particulièrement axé sur les droits des femmes, donc droit à l'éducation, droit à l'emploi. Ça a entre autres émergé dans la foulée de la Première Guerre mondiale parce qu'on a demandé aux femmes de faire leur effort de guerre et ensuite on leur a dit, ben retournez chez vous. Puis là, ben c'était un peu... c'est un peu de là qu'est parti en... du moins en partie, la réflexion féministe d'écouter, on était inscrite dans l'espace public pendant un temps seulement, maintenant vous voulez plus de nous. Et donc, il y a eu une forte dénonciation justement de l'exclusion des femmes dans la sphère publique, que ce soit en éducation, en emploi, de la politique. Et il y a eu, comme tu parlais tantôt, le mouvement des suffragettes. Donc, c'est un mouvement qui a eu lieu tant aux États-Unis, au Canada qu'en Europe pour le droit de vote des femmes. Il y avait quand même certains paradoxes qu'on peut soulever dans cette première vague, si on peut dire. Entre autres, les femmes parlaient de droits publics, mais elles parlaient aussi des devoirs privés. C'est un féministe qui d'une certaine manière, sans vouloir uniformiser la pensée féministe de la première vague, le discours était très différentialiste, c'est-à-dire qu'il était très fondé sur les différences entre les hommes et les femmes. Nous, les femmes, nous avons le droit à ça parce que nous sommes vaillantes et nous sommes bienveillantes et que ça vaut la peine d'avoir des gens comme nous dans l'espace public. Alors, c'était quand même assez déterministe comme réflexion. Ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme, je vais vous citer Micheline Dumont, qui est une historienne québécoise. Elle dit que la deuxième vague, c'est l'irruption d'une nouvelle analyse dite radicale qui va à la racine de la subordination des femmes, qui vient bouleverser profondément la scène féministe. Donc, cette irruption se produit à la fin des années 60 dans les principaux pays occidentaux, et c'est elle qui lance véritablement ce que l'on a nommé la deuxième vague du féminisme ou encore le néo-féminisme. Donc, Micheline Dumont, elle considère que la deuxième vague a commencé avec l'analyse radicale. L'analyse radicale, elle se posait en opposition avec l'analyse égalitariste ou libérale, si on peut dire, qui était à la base de la réflexion de la première vague féministe. Donc, la deuxième vague, elle se situe plus ou moins vers la moitié du 20e siècle, jusqu'à plus ou moins la fin du 20e siècle. Dans cette réflexion-là, les droits l'emportaient carrément sur les devoirs. Donc, l'égalité était au cœur de toutes les analyses, que ce soit autonomie financière, égalité salariale, égalité juridique, égalité dans l'éducation, dans la famille, droit au divorce, présence des femmes dans toutes les instances, dénonciation de l'infantilisation des femmes et de la discrimination à l'égard des femmes mariées. Il y avait comme revendication des mesures compensatoires, des programmes spéciaux, des actions positives, si on peut dire. Donc, tout ça, c'était le début de la réflexion de la deuxième vague. C'était encore très, si on peut dire, très fondé sur la réflexion féministe libérale. Donc, tous les êtres humains sont égaux, donc les femmes ont des droits aussi. Il y a eu quand même un courant plus révolutionnaire, plus contestataire que Micheline Dumont identifie comme étant à la base de la réflexion de la deuxième vague féministe, qui est le féminisme radical. Le féminisme radical, ça s'est mis en place en critique ou en réaction par rapport à l'analyse marxiste matérialiste. C'est un courant révolutionnaire donc qui naît en opposition au marxisme, puis le marxisme est critiqué pour son manque de considération de l'oppression des femmes, puis aussi ça critique le courant égalitariste, son précurseur, parce que c'est un aspect trop réformiste. C'est un courant qui a émergé plus en Occident dans un ensemble de conjonctures politiques, sociales, culturelles. Puis ça a favorisé un peu ce déclin-là, si on peut dire, des années 60-70, la libération sexuelle, les mouvements anti-guerre, tout ça. Ça a favorisé la naissance des mouvements sociaux dits révolutionnaires, si on peut dire. Entre autres, donc, le livre dont je vais vous parler après traite précisément de la deuxième vague féministe. Mais plus particulièrement de la sexualité. La sexualité, ça occupait une place centrale dans le féminisme radical. Ça l'occupe toujours, d'ailleurs, le féminisme radical est toujours bien vivant. Donc, la sexualité était considérée et est toujours considérée comme un champ de domination. Il y a entre autres Kate Millett, qui est une féministe radicale de la deuxième vague, qui disait que le privé est politique. Donc, les féministes radicales se distinguent des égalitaristes principalement sur les trois points suivants. D'abord, elles parlent de révolution, non pas de réforme. Elle demande l'abolition de la distinction entre le privé et le public. C'est-à-dire que ce qui se passe derrière des portes closes, c'est pas privé, c'est public aussi, c'est politique. Ça doit être débattu collectivement. Entre autres, par exemple, si on revient à l'exemple de la violence, c'est pas quelque chose qui est considéré comme intime. La violence, c'est politique. C'est aussi le troisième point de discorde entre radical et égalitariste, c'est la remise en question des concepts et notions forgés dans le système patriarcal. Donc, les radicales demandaient vraiment une révolution épistémologique, si on peut dire. Entre autres, faisaient une critique fondamentale de la réflexion de Freud, qui était considérée comme un exemple flagrant du système patriarcal. Les principales critiques qui ont été adressées aux féministes radicales, pardon, c'est qu'ils hiérarchisaient les luttes de libération. Donc, par exemple, on disait que l'oppression principale des femmes était dans la sexualité. Ça, c'est une des choses qui a été fortement critiquée, entre autres, par les féministes de couleur puis les féministes lesbiennes, parce que l'oppression n'était pas nécessairement dans la sexualité comme telle, mais ça pouvait être aussi dans le fait d'être une minorité sexuelle, d'avoir une orientation sexuelle différente, d'être une personne de couleur, d'avoir une classe sociale différente, d'avoir des capacités différentes aussi. Donc, ça, c'est une des principales critiques qui a été adressée, de ne pas considérer l'intersectionnalité des oppressions. Deuxièmement, ce qu'on reprochait au féminisme radical, c'était de trop insister sur la sexualité comme champ de domination. Donc, un aspect réducteur de la sexualité comme principal lieu de la domination. L'émancipation ne pouvait pas passer par la sexualité. C'était on reprochait une vision trop négative de la sexualité. Et enfin, c'était de victimiser et uniformiser la catégorie femme. Donc, toutes les femmes étaient toutes victimes de tous les hommes. Pardon.
Est-ce que tu veux nous dire deux petits mots sur la troisième vague, si tu veux qu'on ait le temps de parler de ton livre?
Oui. Disons que la troisième vague, comment on la situe, c'est donc fin 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore une grande présence théorique et politique du courant radical. Par contre, on note une diversification du féminisme. Donc, l'influence des femmes dites de couleur et des théories post-structuralistes et post-modernes. Il y a aussi l'apport de la pensée queer qu'on peut associer entre autres à la réflexion de Judith Butler que tu nommais tantôt. Les principales revendications de la troisième vague, c'est ça va au-delà pardon, des droits généraux qu'on peut donner aux personnes, ça va plus par rapport aux femmes dans le sens du contrôle de leur corps, de leur santé, le droit à l'avortement, le contrôle des naissances, la dénonciation du patriarcat encore, critique de la contrainte de l'hétérosexualité, contrainte à l'hétérosexualité par contre, critique du féminisme du Nord qui se croit universel, mouvement des femmes du Sud qui est devenu plus visible. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de toutes les formes d'oppression qui pouvaient exister, qui n'étaient pas seulement, en fait, chose que Jane Gerard dit dans le livre que j'ai lu, que le féminisme de la deuxième vague était très blanc, classe moyenne américain. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps?
Ben, si tu veux, on peut soit passer en musique puis revenir avec le livre, ou sinon tu peux poursuivre pour quelques minutes.
Ben, pour terminer sur la troisième vague, en gros, c'est que un des postulats, c'était que la vérité, l'objectivité et l'universalité, ça doit être contextualisé. Donc, le sexe, l'identité sexuelle, l'orientation, tout ça, c'est des constructions sociales qui doivent être réfléchies. Donc, déjà là, ça remet beaucoup en question des choses qui n'avaient pas été nécessairement autant réfléchies dans la deuxième vague. Et peut-être pour terminer sur une note un peu plus ouverte ou plus simplificatrice par rapport aux vagues. Micheline Dumont, elle se pose un peu contre le principe de vague, mais ce qu'elle dit, c'est que on n'est pas nécessairement en train d'assister à un nouveau féminisme, mais plus à des questions nouvelles qui font évoluer le féminisme. Et on peut donc proposer que le féminisme actuel s'approfondit et, ce faisant, il se heurte de plus en plus au noyau dur du patriarcat.
Excellent. Ben, je pense qu'on va quand même écouter une petite musique pour digérer tout ça. Puis on va revenir avec quelques mots sur ce magnifique ouvrage avec un super beau talon haut rouge sur la couverture.
Mm-hmm. On va en musique avec Swad Massi, une chanson qui s'appelle Raoui. Donc Swad Massi est algérienne, puis là c'est une chanson pour nous faire oublier la guerre, si on peut l'oublier.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حجيت نجيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيت ما جيت ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما جيت ما تنقص من عندك قالي شفا ولا بلاه حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Donc, on est de retour à Ainsi squat-elle sur les ondes de Sequoia FM 88.3. Donc, c'est Marie-André qui vous parle. Je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire. Je sais pas si, pour les personnes parmi vous qui écoutaient l'émission à mon dernier passage, je vous parlais que mon mémoire va porter sur l'analyse de, des apports de la théorie anarcho-féministe dans la réflexion sur l'hétérosexualité. Et dans ma réflexion, je suis tombée sur un livre qui est assez récent, qui a été écrit par une Américaine qui s'appelle Jane Gerhard, qui s'appelle, le livre s'intitule Desiring Revolution et il porte sur le féminisme de la deuxième vague et toutes les réflexions qui ont eu cours sur la sexualité. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'elle axe sa réflexion précisément sur les apports dans la réflexion sur la sexualité et non pas, elle s'éparpille pas à gauche, à droite, si je peux dire, sur tout ce qui a été discuté dans la deuxième vague. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle démontre de quelle manière la psychologie de l'époque, la psychanalyse, reposait énormément sur les apports de la théorie de Freud et comment les féministes se sont attaquées à cette théorie-là de différentes façons. Certaines disaient que la théorie de Freud était à déconstruire et à bannir, alors que d'autres disaient que c'était au contraire un parfait exemple de la pensée patriarcale et qu'on devait s'en servir pour théoriser ce qu'on devait combattre. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'elle passe de Betty Friedan, qui était une féministe égalitariste, à Kate Millett, qui était une féministe radicale, à Shulamit Firestone, qui était aussi une féministe radicale. Elle va ensuite voir c'est quoi la critique des féministes lesbiennes par rapport à l'analyse des hétérosexuels sur la sexualité. Et elle termine en discutant du débat qui a été nommé le Sex Wars dans la fin des années 70, début des années 80, sur pro ou anti-sexe. C'est des divisions assez négatives, mais en fait, c'était le gros débat pour ou contre la pornographie au sein du mouvement féministe. Donc, son livre est très bien documenté. En fait, elle est allée lire des féministes, mais elle est allée prendre des livres, puis au lieu de lire le texte, elle allait lire les notes de bas de page. Et donc, elle disait les notes de bas de page pour finalement aller voir qui a réfléchi à ça d'abord et jusqu'au moment où tout le texte répondait. C'est très, très bien écrit, très intéressant. Donc, si vous êtes intéressé à demander ça comme cadeau de Noël, c'est Jane Gerhard, G-E-R-H-A-R-D. Le livre date de 2001 sur les presses de l'Université Columbia aux États-Unis.
Bien, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Marie-André.
Merci.
Et on va commencer une petite musique avant de passer au calendrier.
Nous avons la petite musique.
Ouais.
Pour le calendrier, on a sélectionné quelques activités, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Il y a le souper de spectacle de Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec le 4 décembre, donc samedi à 17h30 au Centre Horizon. On a la manifestation nationale lundi, où on espère vous voir toutes et tous. Il y a plusieurs lieux de rencontre quand même pour la manifestation, pour les manifestations.
On rappelle que c'est lundi le 6.
C'est lundi le 6. Donc on peut se retrouver, j'imagine, à 13h. C'est devant l'Assemblée nationale de Québec, c'est ça. Donc venez nombreux, nombreuses avec les boîtes pour faire du bruit et tout ce qu'il faut. D'autres activités, il y a un concert jeudi soir à la Page Noire. Donc c'est un groupe qui s'appelle Des Kangourous dans la Citrouille. Musique bretonne, musique celtique, musique un peu tout. Je fais de l'auto-promo pour des gens qui font de la très bonne musique. Donc c'est à la Page Noire, jeudi à partir de 19h. Et voilà, il y a une contribution de 4$. Et il y a aussi... Oui, Evelyne.
265 rue Dorchester.
Merci. Et vendredi soir, un show que vous ne pourrez pas rater, puisque ce n'est pas un show, c'est une soirée dansante. Donc sortez Dancing Shoes à l'Agité à partir de 10h. L'entrée est gratuite. L'Agité, c'est au
251 rue Dorchester.
Merci Evelyne. C'est à partir de 10h. Et il y a Filon d'art avant de 5 à 10. Donc une soirée hip-hop. Donc voilà, on vous invite aussi à fêter, puisqu'il
Vous aimez la musique, le choix musical de Marie, ça va être entre autres présent.
Entre autres.
À la soirée.
Ok. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Merci Marie-André. Merci Evelyne.
Merci à vous, mesdames.
Salut.
Salut.